VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élection RDC, un jeune partisan de l'opposant Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle du 23 décembre, a été tué ce jeudi par balle à Mbujimayi, quelques heures avant l'arrivée prévue du candidat dans son fief du centre du pays. Le décès de la victime abattue par un policier a été confirmé par la société civile et d'autres observateurs présents sur le terrain. Les préparatifs pour l'accueil de Félix Tshisekedi continuent normalement, a indiqué son parti. L'UDPS. M. Tshisekedi doit arriver par avion à Mbujimayi, capitale diamantifère du Kasaï, dans une heure, à 13h, temps universel. Il y a eu aussi des morts parmi les partisans de Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamouka d'opposition. À son arrivée hier à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika dans le sud-est du pays. M. Fayoulou a évoqué également les deux personnes tuées la veille à son arrivée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et promis de saisir la justice, tandis que l'ONU appelle au calme. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des violences ont éclaté à Kalemie dans le Tanganyika à l'arrivée du candidat Martin Fayoulou et ont fait un mort selon des sources officielles, trois selon l'équipe de campagne du candidat numéro 4 à la présidentielle. Martin Fayoulou a malgré tout pu tenir son meeting sur place mais n'a pas pu se rendre par la suite à Kolwezi comme le prévoyait son programme. Sur son compte Twitter, il dit que son avion a été dérouté pour ne pas atterrir à Kolwezi où il était pourtant attendu par ses partisans. Martin Fayoulou et son équipe de campagne ont finalement passé une nuit à Goma dans le Nord Kivu. Programme de meeting perturbé également pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le ticket cash entendait cap pour le changement n'a pas pu se rendre à Butembo après l'étape de Beni, évoquant des raisons sécuritaires. Félix Tshisekedi a même ouvertement accusé la coalition Lamouka qui soutient Martin Fayoulou d'avoir planifié leur agression sur place à Butembo. Le président de l'UDPS Tshisekedi et son équipe ont finalement passé une nuit à Kisangani et seront en Mbujimayi dans le Kasaï oriental cet après-midi. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari a lui tenu mercredi son meeting à Bunia dans le chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces violences qui ont provoqué mort d'homme à Lubumbashi puis à Kalemie sont condamnées par l'ONU. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Leila Zerougui, s'est dit préoccupée par la succession d'incidents graves et appelle les uns et les autres au calme. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste en Afrique centrale. Patrice Edouard Ngaïsona, un ex-chef de milice anti-Balaka en Centrafrique et figure de proue des autorités du football africain, a été arrêté mercredi en France par les autorités conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale, la CPI. Idriss Fall a recueilli hier la réaction de Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons appris ce matin que Edouard Ngaïsona a été arrêté à Paris pour exécuter un mandat d'arrêt international décerné par la Cour pénale internationale. Nous avons noté que dans le mois, puisque c'est le 17 dernier, que Alfred Hécatombe, un caporal chef qui avait appartenu au mouvement anti-Balaka, a été arrêté et transféré à la CPI. Ngaïsona, qui avait été à un moment donné coordonnateur du mouvement anti-Balaka, a été arrêté à Paris et serait en voie d'être transféré à la Cour pénale internationale. Ce conflit, il y avait deux camps, un camp qui avait semé la terreur et qui a donné naissance aux anti-Balaka, alors que le feu brûle encore sur les agissements de Séléka à Lindao, à Ipi, à Batangafo, à Karabandoro hier, à Bambari pratiquement, ce sont les autres qui se sont tués, qui sont déférés à la Cour pénale internationale. Donc ça c'est notre grand étonnement, alors que la Cour pénale internationale avait des moyens, avec des forces internationales qui sont ici pour que les hauts responsables de notre groupe soit aussi recherché et ramené à la Cour pénale internationale pour garantir à cette haute juridiction toute sa neutralité.
Sans citer personne, vous pensez que les FACA ou bien l'ONU va tenter d'arrêter certains leaders de l'ex-Séléka?
La justice, si elle travaille en disant « puisque j'ai fait de l'autre côté, il faut que je fasse comme ça pour contenter les gens », ce n'est pas une bonne justice. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des crimes qui sont visibles, qui sont connus, mais qu'on a semblé fermer les yeux dessus. Je donne l'exemple. Vous avez deux volcans, un autre volcan qui s'est éteint et un autre volcan qui est en éruption. Et vous évacuez les gens autour du volcan éteint parce qu'ils seront en danger, alors que le volcan qui est en éruption présente le plus grave danger. C'est un agissement sélectif et risque à ne pas en douter de créer d'autres foyers de tension plus graves dans le pays.
Ça intervient alors qu'on vient de mettre en place à Bangui un tribunal spécial qui devrait s'occuper de ces questions-là, non?
C'est bon, une cour pénale spécial dont le dialogue solennel a été lancé, dont les stratégies de poursuite sont déjà adaptées. Les personnes qui refusent de rechercher par cette juridiction, cette cour pénale spéciale, ce sont les Alfred Hécatombe, ce sont les nationales, ce sont les autres. Mais on vient, on les recherche cette cour pénale spéciale. Quel est son intérêt à ces jours? Mais pourquoi est-ce qu'on coupe l'herbe sous la cour pénale spéciale? La feuille de route de l'Union africaine, qui est la seule voie de sortie de crise, est-ce qu'on ne semble pas mettre en œuvre des mécanismes qui sont de nature à ce que la République centrafricaine ne sorte jamais de l'état de guerre qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui?
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, deux djihadistes présumés originaires du Burkina Faso, un autre du Mali et un quatrième de Côte d'Ivoire, soupçonnés de préparer des attentats dans ces trois pays, ont été arrêtés la semaine dernière. Ils ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer des attentats dans certains points sensibles d'Abidjan, Bamako et Ouagadougou lors des fêtes de fin d'année, annoncent les autorités maliennes. Selon Bamako, les quatre membres de cette cellule terroriste ont participé au double attentat effectué le 2 mars dernier à Ouagadougou, ainsi qu'à l'enlèvement d'une religieuse colombienne en février 2017. Au Niger, une centaine de réfugiés soudanais ont entamé hier un sit-in devant le siège du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Niamey. Les intéressés demandent leur installation dans des pays tiers, notamment en Europe. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Une dizaine de protestataires ont agité des banderoles sur l'une des principales routes où se trouve le siège du HCR à Niamey. D'autres étaient couchés sous un hangar du parking de l'agence onusienne. C'est le HCR qui nous a amenés ici de Libye depuis une année et nous voulons savoir si on nous a trouvé une solution pour quitter le Niger, a déclaré Younoussa Ibrahim, leur porte-parole. Il pointe des discriminations. Selon lui, les Érythréens et les Éthiopiens ont déjà reçu des papiers pour quitter le Niger pour l'Europe et l'Amérique. Le HCR explique que la situation est due aux quotas qu'offrent les pays européens et que la réinstallation des réfugiés soudanais n'est pas envisagée pour le moment. Toujours selon le HCR, les réfugiés bénéficient au Niger d'un toit et de travail sur les chantiers de construction. Depuis novembre 2017, plus de 1500 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger. Des centaines de demandeurs d'asile ont pu être réinstallés en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande, mais d'autres attendent toujours un pays d'accueil.
Corne de l'Afrique, le président érythréen Isaias Afwerki est en visite aujourd'hui à Mogadiscio en Somalie. Une première depuis son entrée en fonction en 1993. Objectif, des consultations avec son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed et intensifier le réchauffement des relations entre les deux pays voisins. Actualité aux États-Unis maintenant, Michael Cohen, l'ancien avocat du président Donald Trump, a été condamné mercredi à 3 ans de prison par un juge fédéral de Manhattan à New York, après avoir reconnu couvrir les coups bas du président. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Avant que la peine ne soit prononcée, Michael Cohen a pris la parole. D'une voix étranglée, il a expliqué avoir eu tort de se compromettre au service de Donald Trump, pour lequel il a été un véritable homme à tout faire durant plus d'une décennie. Il avait raison de me traiter de faible, mais pour une autre raison. Je pensais que c'était mon devoir de couvrir ces sales coups plutôt que d'écouter ma conscience, regrette l'ex-avocat personnel du locataire de la Maison-Blanche. Il a été condamné pour avoir acheté à la demande du milliardaire le silence de deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec lui. En novembre, il a aussi avoué avoir minimisé devant le Congrès l'ampleur des contacts de l'équipe de campagne de M. Trump avec Moscou. Michael Cohen, 52 ans, a obtenu de ne servir sa peine qu'à partir du 6 mars. Il a été pendant 10 ans vice-président de la Trump Organization et l'un des hommes de confiance du milliardaire new-yorkais. Il a opéré en quelques mois un retournement de veste spectaculaire.
Et pour terminer, conflit au Yémen, un round de négociation de paix sur le Yémen s'achève aujourd'hui en Suède, en présence du secrétaire général de l'ONU, venu en renfort tenter d'arracher aux belligérants une trêve cruciale pour l'aide humanitaire dans un pays au bord de la famine. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.